Extra, vous êtes bien tout là-bas, loin, loin? Je me sens seul ici, c'est terrible. On va lancer. Je vous cache tout. Je me débrouille. Ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail.
On peut pas penser à.
Si, les autres fois, j'ai réussi. Tu vois quand même? Voilà. Tapsch. Extra. Tu peux lancer, puis mettre. Voilà. Super. Alors bienvenue à chacun et à chacune. C'est la dernière soirée. C'est la dernière de ce cours. J'espère que pour chacun ça aura été vraiment riche. Mais comme c'est la dernière, on va quand même la faire, la dernière. Donc voici vraiment, j'ai vraiment envie de vous remercier. Ben, où sont les autres? Il manque du monde. C'est impressionnant. Il n'y a personne ce soir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hein? Il manque une dizaine de personnes. Non, c'est fini. Tout le monde est passé, oui. Ouais, d'accord. Ce que je comprends. Déjà? Ok, c'est enregistré, donc c'est tout bon. Extra. Alors en fait, c'est peut-être terminé, mais c'est pas terminé. J'aimerais juste votre attention pour que vous le sachiez. Il y aura une suite. Cette suite, ça s'appelle « Écoutez la voix de Dieu ». Voilà, comme ça vous voyez déjà le cahier. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fixé une date aujourd'hui arbitraire, mais si tout se passe bien, ce sera en tout cas la première, ce sera le... Pas que je dise de bêtises. Ce sera le mardi 15 janvier. Donc il y a le temps. Et puis ce sera la suite de celui-là. Je sais qu'il y a une autre église sur Genève, oui, qui veut faire le même cours que vous, mais il ne faut pas attendre jusque-là. Donc s'il y en a qui veulent le refaire, je saurai les dates, puis il n'y a qu'à demander, et puis je pourrai les transmettre. Et puis la suite, le prochain cours aussi, c'est parce que pour organiser un cours comme ça, c'est pas du 3 minutes et j'ai fini. Et donc c'est pour ça qu'on le fait pour l'année prochaine. Ça laisse aussi le temps à chacun de revenir sur ce cours, de le travailler, de se préparer. Et puis dès qu'il y aura d'autres cours, ben on les transmettra. Voilà. Le cours « Écouter la voix de Dieu rapidement », c'est pour nous apprendre que Dieu nous parle, à nous aussi, qui que nous soyons. Et ce sera pour apprendre à comment il peut nous parler, comment réagir avec ce qu'on reçoit, découvrir comment transmettre plus loin, comment recevoir ces choses. Et il y aura aussi une phase de pratique. Mais c'est vraiment un cours qui est hyper motivant, très très réjouissant avec la phase pratique. Et puis pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y aura un troisième cours, on n'en est pas encore là, pour que ceux qui veulent aller plus loin puissent le pratiquer, quitte à un jour devenir les responsables comme ceux qui ont prié avec vous. Donc c'est tout à fait possible, et puis c'est une dynamique, mais on veut pas accélérer, puis que tout le monde étouffe sous le trop-plein. Voilà. Ok. Les cours, ils sont enregistrés, ce qu'on a vécu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai le petit flyers ici. Il y a trois adresses possibles pour aller les écouter. Celui de ce soir n'y est pas encore, vous pensez bien. Alors, je donne les flyers, vous voulez passer, vous avez trois possibilités d'adresse, ça arrive au même endroit. Comme ça, vous pouvez écouter chacun des cours. Ok. Juste prier un coup. Encore remettre ce temps. Oui, Seigneur, je veux élever ton nom. Tu es venu sur terre, tu es venu te rapprocher de chacun d'entre nous pour nous rendre libres et nous permettre de goûter à ta liberté. Je remets vraiment cette soirée entre tes mains, qu'on puisse encore découvrir certains de ces points et comprendre ce que tu veux, là où tu veux nous amener. Je nous remets chacun d'entre nous, Seigneur, entre tes mains ce soir, si tu veux déjà commencer de guérir, alléluia, amen. si c'est un travail pour certains, pour qu'on apprenne mieux encore, vient nous donner la force, le courage, la motivation. Et je demande vraiment ta grâce, viens frapper à nos cœurs ce soir, et que l'on puisse vraiment être ouvert devant toi et ce que tu veux nous donner. Louange et gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais souvent on désire grandir, on désire avancer, on désire se soigner, mais des fois on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Alors on fait des cours Vivre Libéré. Puis des fois c'est aussi possible que malgré toutes les choses que l'on découvre, il y a comme quelque chose qui nous pèse, qui nous bloque. C'est des possibilités. Alors soit c'est parce qu'on ne veut pas changer de vie, comme on l'a vu chacun des cours, on ne veut pas s'adapter, soit. Mais ce soir, on va aussi parler d'une autre dynamique qui souvent, on n'y pense pas, surtout en Occident. On a besoin que les choses changent, mais on ressent qu'il y a un blocage. On sent qu'il y a quelque chose qui ne veut pas aller plus loin. Et des fois, on aurait peut-être tendance à être un peu démoralisé. Ouais, mais Seigneur, j'ai tout fait. Pourquoi ? Et trop souvent, en Occident, on est très individualiste. Dans d'autres pays, comme dans l'Afrique ou en Asie, ils sont très communautaires. Et certaines des choses qu'on va parler ce soir, pour eux, c'est du naturel. Pour nous, ça passe limite pour de la science-fiction. Et j'ai envie que ce soir, on arrive à ne pas négliger cette réalité, mais à réaliser à quel point elle peut affecter nos vies. Et surtout, oser croire que c'est possible, parce que Jésus a une liberté totale à nous apporter, même dans ce domaine-là. Et en fait, c'est surtout que ça aura un impact dans nos vies. Ces choses-là qui ne sont pas évidentes, ces forteresses qui ne sont pas évidentes, comme on a vu le titre, c'est ces malédictions, c'est ces liens d'âme. Et puis trop souvent, on a l'impression que ça, c'est du Hollywood ou du Walt Disney. Les malédictions, mais ouais, c'est ça, alors tout le monde rigole entre copains d'école ou au bureau, ouais, tiens, tu m'énerves, je vais te piquer vos doux, là, tu vois. Et puis les gens rigolent. Ouais, je vais te jeter un sort, puis tu vas voir. Et on rigole. Ou les liens d'âme, on se dit, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on n'en entend jamais parler. Et pourtant, c'est des réalités qui sont terribles. Et c'est des réalités qui, devant Dieu, mérite d'être déposé pour recevoir libération et guérison. C'est des forteresses qui sont souvent existantes depuis des générations. Et la Bible, elle en témoigne, que ce soit sur l'impact spirituel du péché, sur une famille, sur une communauté, et souvent ce qu'on entend, c'est sur les générations, les ancêtres ou l'âge de descendance. Romains 15, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais ça, c'est l'exemple le plus flagrant de ce lien générationnel et de ces problématiques générationnelles. Et là, on ne peut pas le nier. Donc, c'est pour ça qu'on met celui-là, pour te redonner un exemple. On peut dire que l'on vit dans l'ombre des générations antérieures, de ce qu'ils ont vécu, et notre manière de vivre peut affecter ou même influencer la vie de notre descendance. Et on a souvent tendance à oublier ce qui est venu avant et ce qui vient après. Il faut que je fasse gaffe, parce que certaines choses, je les ai déjà dit dimanche à l'église, dans d'autres messages, alors après j'ai l'impression que je répète. Les péchés générationnels peuvent vraiment bloquer certaines familles ou communautés, comme s'ils ne parviennent pas à sortir d'un cycle vicieux. Un exemple, La pauvreté, une famille, on ne sait pas pourquoi, mais depuis des années et des années, depuis des générations, on a l'impression qu'ils font tout ce qu'ils veulent, mais c'est dette sur dette, c'est pauvreté, il n'y a rien qui marche niveau finance. Un exemple. La criminalité. Dans certaines familles, pourquoi on a l'impression qu'il y a toujours une violence qui revient? On prend des exemples classiques, malheureux. Ben, souvent, quand il y a une violence dans le couple, ben, les enfants suivants, ils retrouvent la violence. Et on voit, génération, génération, que c'est des choses qui se perpétuent. La même chose pour l'alcool ou certaines addictions. Il y a comme des suites. Je pense qu'on a tous conscience de certaines de ces choses-là. Et aussi des questions, les naissances hors mariage. Tu fais ce que tu veux, les gens peuvent marcher le plus droit possible. Mais dans une famille, on a l'impression que c'est jamais possible. Ils n'auront jamais un cadre. Ça marche pas. Il y a toujours quelque chose qui bloque, etc., etc. Des attitudes, des situations, des comportements, des pensées, des situations de vie. En fait, c'est des forteresses, un lien qui existe de génération en génération et qui peut influencer jusque dans les émotions, même si dans le parcours, les choses qui nous entourent, on a l'impression que tout va bien. Il y en a, on se dit « Ah ouais, ben c'est normal, on voit son parcours. » Et puis d'autres, c'est des comportements, c'est peut-être plus discret, mais il y a un poids dans la famille, pourtant... Tout semble bien aller. À la page 53, colonne de gauche, il y a le premier verset en bas, Exode 20, 5 à 6. La Bible, elle parle de ces choses-là. « Je punis les fils pour la faute de leur père. Oh, oh. Jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Il ne faut pas oublier que c'est vrai que si quelque chose n'est pas en ordre devant Dieu, on est automatiquement sous le jugement de Dieu. Et quand on ne veut pas marcher, on ne peut donc pas entrer dans les promesses et les bénédictions de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « je punis les fils jusqu'à ». Déjà, il y a l'héritage, mais en plus, il n'y a pas de changement, il y a punition. Grâce incroyable jusqu'à la troisième, voire quatrième génération. Ça vous le veut dire. Et ceux qui ont fait des études d'histoire, vous avez pu remarquer qu'au bout d'un certain temps, c'est comme si certaines déviances s'arrêtent, puis que tout d'un coup, il y a une nouvelle génération qui peut repartir, qui va à l'effet opposé. Mais, il y a un gros mec qui est génial. J'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Autrement dit, Dieu, dans son encouragement et dans son amour, ben, ces liens, cet héritage, les choses qui viennent de lui, cool aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on connaît des fois des grands hommes de Dieu, c'est mal dit, mais certaines personnes, puis on voit qu'on ne sait pas pourquoi, j'en fais pas une règle, pas qu'on comprenne mal ce que je veux dire, mais on voit que ça coule dans leur famille ou dans leur descendance. Dieu aime la bénédiction. Dieu aime les bons liens, les bons héritages. Et lui aussi veut nous en donner. Ça, c'est magnifique. On peut les voir dans notre lignée familiale. Je ne sais pas si vous connaissez bien vos propres familles, mais si c'est le cas, prenons juste un instant. On voit qu'il y a des schémas dans nos familles, positifs ou négatifs, au travers des générations. Un exemple, ils sont gradés dans l'armée de père en fils, ça se dit, on l'a vu dans des livres, dans des témoignages de personnes, dans des films. Ben voilà, nous sommes gradés, nous sommes officiers de père en fils. On est tous musiciens, de père en fils. C'est des choses qu'on a souvent entendues. Ce ne sont que quelques exemples. Il peut y avoir des points positifs comme des points négatifs. Comme par exemple l'alcool dont j'ai parlé avant. Ben ouais, il y en a toujours un dans la famille qui dévie. Ou bien il y a toujours cette violence, n'est-ce pas? L'exemple de l'alcool et d'autres schémas récurrents peuvent découler de dépendance, de problèmes de santé, de péchés persistants, de problèmes relationnels, voire même d'abus qui ont eu lieu une fois chez ceux de notre famille. Certaines malédictions ne toucheront que des hommes, d'autres ne toucheront que des femmes, d'autres, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi qui m'intéresse à ces choses-là, j'ai découvert que ben, les premiers-nés sont souvent ramassent beaucoup aussi. Bref, il n'y a pas de hasard dans ces répétitions, il y a une dynamique spirituelle qui est lié à ces choses-là. Et il est bon d'en tenir compte et de le savoir. Il y a des indicateurs. Les troubles restent l'expérience, par exemple, qui peut nous aider à comprendre ou à voir ces choses dans nos familles ou dans nos propres styles de vie. Il peut y avoir les expériences. On a vécu ces choses. Les troubles restent malgré bien des changements sincères. Rien ne semble aider, pas même la prière, les médicaments, la relation d'aide. On voit qu'il y a un blocage chez quelqu'un. Il y a l'observation, les recherches. Regardons dans nos familles, qu'est-ce qui s'est passé. On le voit des fois aussi dans les autres de la famille. Je prends les cousins ou j'en sais rien. Tout d'un coup, on voit que là, il y a quelque chose. Ça nous marque, quelque chose qui est différent, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Dans la famille proche, dans d'autres branches, nos descendants, les générations d'avant qui confirment cette situation continue. Le discernement. Des fois, on est dans la prière, puis tout d'un coup, quelque chose, puis Dieu peut nous montrer ces choses-là, ce don du Saint-Esprit qui nous rend sensibles, nous alerter qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est un cadeau de sa part. La révélation prophétique, on peut prier pour quelqu'un, puis tout d'un coup, quelqu'un a une pensée, il peut la donner. Que la racine remonte à telle ou telle génération. Je prends un exemple, je ne vais pas donner le détail, mais ma maman a été suivre un cadre de prière. Puis dans le cadre de prière, il y a quelqu'un qui a dit « Il y a à la Xème génération, vous avez vécu dans votre famille un blocage et une malédiction par rapport à la traite des Noirs, par les négriers. » On n'a aucune trace de ça. Alors on s'est dit « On fait quoi avec ça ?» Puis ma mère, elle a accepté, ils ont prié, etc. Dans les jours qui ont suivi, sa relation à sa propre sœur et aux enfants et aux cousins a complètement changé. Les discussions étaient différentes. Il y avait un regard différent. Il y a tout d'un coup, mais du jour au lendemain, quelque chose de complètement différent qui a changé. Mon frère, un de mes frères, qui a tellement vécu d'horreur dans sa vie, niveau foi, sectaire et compagnie, qu'il est détruit de chez détruit, lui, il a regardé ma mère, puis il a dit « Je sais pas ce qui se passe, mais t'as dû vivre un de ces temps de prière, parce que t'es plus la même. » Voilà, c'est un exemple, hein. Donc voilà des possibilités, des indicateurs différents, et je crois qu'il est bon d'oser, dans nos vies, découvrir ces choses. J'en suis ici, d'accord. Ces indicateurs peuvent nous aider. Maintenant, ouvrez vos pages 54. Et puis vous pouvez voir dans le cadre jaune, à la page 54, c'est un exemple, un indicateur, une liste. Elle est certes non complète de symptômes et de problèmes qui peuvent être liés à des forteresses qui remontent à des générations antérieures. Je vous laisse juste lire un petit instant, on ne va pas s'arrêter très longtemps là-dessus, lisez en vitesse. Revenez dessus plus tard, si tout d'un coup c'est quelque chose qui vous parle. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de cocher ou autre maintenant, mais voilà, c'est des idées, hein. Et si tout d'un coup vous savez certaines choses qu'elle vous parle sur cette liste, le quart de la moitié d'une demi-seconde pour mettre une croix, je pense que c'est tout bon. Mais revenez surtout dessus ensuite, si vous voulez aller plus loin de ces choses. On peut aussi démanteler des problèmes générationnels. Et il est important de ne pas se reposer lors de nos problèmes et de nos échecs sur l'excuse d'un héritage générationnel. Ouais, mais ils sont comme ça dans ma famille, donc c'est normal que je l'ai. Ça, c'est dangereux. Parce que Dieu, en fait, on l'a vu, il punit sur les enfants les fautes des pères. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit qu'ils continuent de marcher dans la lignée des pères. Ils haïssent les plans de Dieu. Dieu nous responsabilise chacun, et ça on le sait, face à nos propres péchés. Moi, j'ai vécu cette situation. J'avais découvert un héritage familial. Je priais pour être libéré de cette problématique. Et Dieu m'a dit, c'est qui pêche ? Ben ouais, heureusement qu'il me l'a dit, comme ça je peux vous en témoigner. C'est qui pêche ? Et là, j'ai dû me remettre personnellement en question avant de pouvoir aller plus loin et voir des choses qu'on va découvrir encore pendant cette soirée. Nous sommes responsables pour notre actuel et notre vécu, même si effectivement nous le vivons par héritage. Je suis pleinement responsable de mes actes, mais on le voit, la Bible, elle est très au clair du fait que des familles, des communautés peuvent porter les conséquences spirituelles des péchés commis au milieu d'elles. Quand un membre de la famille, de la communauté, du groupe confesse ses péchés et invoque le pardon de Dieu, fini, il n'y a plus de barrière qui se pose. Il y a une barrière qui se pose entre l'ennemi et nous. C'est la protection de Dieu. Et lui, il ne peut plus rien faire. On va encore découvrir. Dieu pourvoit toujours un moyen de nous rendre libres. Il peut autant nous libérer, nous, individuellement, même que notre famille. La preuve avec ce qui a été brisé au travers de ma mère, et puis que ça a changé des choses dans les relations de sa propre famille directe. Notre église, notre ministère, notre entreprise, notre lignée, notre pays même. Alors il est important de se repentir de ses péchés, même se repentir de ceux commis dans le passé par nos ancêtres. Car nous sommes la descendance, la suite de la famille. C'est un héritage, et un héritage peut toujours s'accepter ou refuser. Tu peux recevoir un jour d'un héritage une propriété extraordinaire. Tu vas dire « Yes, alléluia !» Tu vas danser, puis tout d'un coup, tu découvres « Bon, il faut encore payer 6,5 millions si on veut pouvoir... » Et en fait, tu as une dette pas possible derrière. Tu as toujours le choix d'accepter ou de refuser un héritage. Si tu l'acceptes, ton héritage de ta super belle propriété, ben tu acceptes les dettes qui vont avec, tu ne peux pas trier. Ben c'est la même chose dans la vie spirituelle. Un héritage peut s'accepter, et même, et surtout, se refuser dans un cas comme ceux dont nous parlons. Dans les versets de la colonne de droite, page 54, vous verrez cette responsabilité et cet échange. Je vais juste vous lire quelques phrases de ces versets. Alors, ils reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres. L'autre passage, « Je suis en prière devant toi, Seigneur, pour intercéder en faveur de tes serviteurs et pour confesser leurs péchés. Nous avons péché contre toi. Oui, mon peuple et moi, nous avons péché. Puis ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Le troisième, « Tout le peuple a transgressé ta loi et s'est détourné. » Et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la loi se sont déversées sur nous parce que nous avons péché contre Dieu. Là, on voit dans ces passages combien Dieu montre cette réalité. Dans le dernier exemple, c'est Daniel à Babylone. Si vous connaissez l'histoire, si vous connaissez le contexte, ce n'est pas pour leur propre désobéissance seulement qu'ils sont à Babylone. Si vous lisez le texte, ça fait plus de 25 ans que Dieu avertit. Et à cause des péchés des pères, de la non-confession et actuelle, ils sont pris à Babylone. Et, une chose qui m'a surprise en lisant tout le passage et tout le contexte, ils ont désobéi en vivant les années sabbatiques, et je ne vais pas entrer dans cette théologie ce soir, mais ils ont désobéi 10 fois. Et puis c'est pour ça qu'ils se retrouvent 70 ans à Babylone. Et on voit l'héritage des générations. On voit aussi avec Néhémie et d'autres exemples de la Bible, les conséquences des péchés d'une génération ont un impact sur la génération suivante. Mais assumer sa responsabilité, comme on l'a vu dans les deux premiers exemples, assumer sa responsabilité pour son péché, ça signifie s'identifier à ce péché, le reconnaître et réaliser que nous faisons partie de cette famille, de cette entité. Et donc nous le confessons pour nos ancêtres, pour nos familles, pour notre héritage. Alors les liens sont brisés. Et c'est la même chose pour les malédictions thèmes de ce soir. Pour briser le pouvoir de ces péchés générationnels, osons revenir aux 4 R, donc on a vu à chaque fois, parce qu'il y a une ligne claire qui est proposée pour toutes ces choses et qui est riche, et ça, en incluant les générations précédentes. En général, on regardait sur nous, et c'est juste, mais là, Dieu veut nous apprendre à sortir de ce cadre et à inclure. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est quand même impressionnant, à inclure les générations passées. Nommons le péché spécifique, nommons la forteresse, renonçons-y et séparons-nous de cela. Les liens d'âme. Il y a des liens légitimes et sains, donc le mot « lien » n'est pas négatif en tant que tel, que Dieu a prévu dans nos vies, entre autres, nos relations avec nos prochains, et particulièrement la notion du couple. Les parents-enfants, les parents spirituels, enfants spirituels, les patrons avec les employés, les pasteurs avec les membres. Mais même dans les bonnes relations, comme dans les mauvaises relations, légitimes ou non légitimes, bibliques ou non bibliques, un lien existe. Dans ce qui est négatif, le problème, c'est que ce qui est mauvais, inapproprié, va se développer pour nous détruire et nous faire du tort. Et ce qui est positif quand on marche dans les choses de Dieu apporte la bénédiction et conduit plus loin. On le voit dans des comportements malsains, non désirés, qui se développent dans et autour des relations. La peur, la colère, le contrôle, la honte, fausse culpabilité, tendance autodestructrice, fuite. Pour vivre libéré, il faut couper ces liens relationnels invisibles qui nous contrôlent. On va un peu comprendre un peu ce que c'est. On utilise cette expression « lien d'âme » pour une relation vécue hors des normes bibliques. Cela conduit à une influence relationnelle malsaine. Et souvent, cette relation, elle comprend une dynamique qui est influencée même par le monde spirituel, avec des effets nocifs sur là où les personnes concernées. La Bible en parle, même si elle n'utilise pas l'expression « lien d'âme ». On va le voir un peu plus loin. On y voit la peur, on y voit la crainte, on y voit la honte. Là, je vais juste faire quelques paraphrases de certains versets. « Je retourne auprès de mon père, mais si c'est sans ramener mon frère, il en mourra. » Ça, c'est quand les frères de Joseph se retrouvent face à lui. Et puis, ils vont garder un. Il leur dit « Retournez vers votre père, etc. » « Je retourne près de mon père, mais si je ne peux pas ramener mon petit frère, mon père va en mourir. Tu seras responsable de sa mort douloureuse. » Et là, on voit cette question. Si ça, ça ne se passe pas, puis que lui, il meurt, c'est ta faute. Il y a un lien, conséquence. Mauvaise relation. Un autre exemple, c'est l'apôtre Pierre qui mangeait. Il mangeait avec tous les nouveaux convertis non-juifs. Donc il mangeait avec eux. Génial, excellent. Tout d'un coup, de ceux qui sont de sa ligne, du judaïsme, qui ont rencontré Jésus, viennent. Confrontation. S'ils me voient manger, moi, avec les païens, là, je vais me faire juger. Et comme lui-même, normalement, il n'est pas censé le faire, parce que la loi, elle est très dure, t'as pas le droit de manger avec quelqu'un qui n'est avec un non-juif, même si c'est en Jésus, lui, il a le réflexe. Problématique, il s'écarte. Problématique deuxième, c'est que ceux qui le rejoignent commencent à fonctionner de la même manière que lui. Dès qu'il y en a un autre qui vient, peur, faut pas qu'il me voie comme ça. Et il y a tout d'un coup quelque chose qui en découle, et l'apôtre Paul qui le reprend lui dit, d'autres ont agi de même, comme Pierre, Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par cette dissimulation. Quatre caractéristiques de lien d'âme malsain. Ils peuvent se développer suite à un péché, par exemple péché sexuel, relation avant ou hors mariage, homosexualité ou autre pratique sexuelle en opposition avec les plans de Dieu. Péché spirituel, occultisme, relation dominée par des expériences religieuses, animisme, mythologie, ou quand tout d'un coup on a fait des vœux, des serments, des alliances, et dans le cadre d'ordres religieux ou de groupements sectaires, c'est une possibilité. Ils peuvent aussi se développer au travers d'une confiance, d'une peur ou d'un désir d'approbation inappropriée. Par exemple, la crainte des hommes. Accorder à l'approbation des autres une place plus importante qu'à l'approbation de Dieu. Genre, oui, mais toi, tu es un incapable, puis on va accepter ça plutôt que Dieu qui a envie de nous encourager en disant « tu es une créature merveilleuse ». Résultat, au lieu de se baser sur ça, on va avoir peur d'entendre le « tu es un incapable ». Ça peut devenir dangereux si on devient dépendant du regard des autres plus que du regard de Dieu et qu'on a peur de leurs opinions plus que de l'opinion de Dieu et de sa pensée pour nous. On sort quelque part de son plan. Si on est manipulé par les opinions des autres, leurs désirs, leurs finances, au point de ne plus pouvoir nous épanouir en tant que personne, ou si nous sommes plus libres de mener la vie selon les plans de Dieu parce qu'on a peur du regard de l'autre, là, on voit encore que c'est une approbation inappropriée. Si on accepte l'influence des autres, ça peut être qui sont des autorités souvent, parents, conjoints, tout dépend de la relation qu'on a, amis, la relation qu'on a, leader. Si on accepte leur influence aveuglément, sans discerner si c'est juste et biblique, un problème, c'est qu'on tombe dans la passivité, par exemple. Ces liens d'âme peuvent aussi être causés par l'abus ou les blessures. que ce soit mental, physique, ou les blessures intimes, sexualité, etc. Cela peut affecter les pensées, les émotions et même la volonté. Et cela souvent conduit à un lien spirituel destructeur. Je prends un exemple, une personne qui a été abusée, sexuellement parlant, très souvent, il y a un renfermement sur soi. Et la personne qui est victime se sent horriblement sale. Et ensuite, elle a un regard extrêmement négatif sur elle-même, alors que c'est plutôt une victime. Donc voilà, c'est un exemple terrible que ça peut être causé par des blessures ou l'abus. C'est extrêmement destructeur. Et ça empêche l'épanouissement de la personne avec des problèmes tels que le contrôle, la manipulation, l'égocentrisme, la honte, ou bien d'autres, c'est des relations malsaines qui amènent à des choses comme ça. Et comme le dit la Bible, ça peut créer un lien destructeur. Ça provoque aussi la confusion. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qui est juste. On n'arrive plus à voir les plans de Dieu, on n'arrive plus à accepter son plan d'amour, son plan de salut et son aide. Ça donne le trouble, ça donne les angoisses, ça donne la honte, la culpabilité, des sentiments d'oppression qu'on peut avoir. On peut démanteler des liens d'âme et expérimenter cette liberté, et c'est ça qui est magnifique. Pour cela, il faut toujours identifier la cause et la source du lien. Il faut couper ce lien. Vous avez entendu ça pendant tous ces cours. Si la source est dans un péché, il faut confesser ce péché. Proclamer dans la prière qu'on coupe ce lien par l'autorité du sang de Jésus. N'oublions pas la puissance du sang de Jésus. Cette vie qui a coulé, qui vient nous libérer, nous délivrer. Et toutes ces choses, les proclamer telles qu'elles sont, vivre encore une fois les quatre R qu'on va aussi pouvoir revoir un peu plus tard. Si la source est dans une blessure ou un abus, on accorde le pardon au coupable. Oh là là, bon, on en a parlé aussi pendant ces cours, revenons là-dessus. Et on le bénit. On confesse nos péchés, amertume, renfermement, colère, ressentiment, fuite, désir de vengeance. Puis on agit comme on a vu pendant ces cours, coupant ce lien par la puissance du sang, de cette coupe qui déborde, de cet amour sans fin versé pour nous. En page 56, à la colonne de droite, vous voyez un exemple de prière dans le cadre jaune. Cela peut aussi vous aider si vous êtes dans cette démarche. Et puis on y met à l'intérieur, il y a toujours un espace qui est posé pour nous proposer de régler cas par cas, dans notre marche avec Jésus, ce que Dieu veut nous révéler. C'est un exemple qui peut vous aider à faire votre propre prière. Malédiction. Souvent on imagine la malédiction d'une manière ou d'une autre. Souvent on n'y croit pas que ça existe, les malédictions. On connaît le mot, comme je l'ai dit avant, hein, Walt Disney ou compagnie. Le cinéma en est rempli, les films sont remplis, de plus en plus les jeux vidéo en sont remplis. On va maudire l'autre. Malédiction, destruction, c'est ce qui donne la vie au film d'un succès. Mais ce n'est pas un cliché que ces choses, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une absolue réalité. Dans certaines nations, comme je l'ai dit, dans certaines cultures, même dans certaines religions, c'est rempli de la puissance de la malédiction. Ils vivent au travers de ces choses-là. Le problème, c'est que tous ces peuples-là qui en sont conscients souffrent énormément. Dans les malédictions, il y a des mots qu'on n'aime pas entendre, comme sorcellerie. Les malédictions sont quelque chose de bien réel et non pas des mythes. Je prends un exemple. Je suis né au Cameroun, mes parents ont vécu au Cameroun, et puis celui qui était le pasteur à l'époque où je suis né avait reçu des menaces d'un sorcier du village sur sa propre famille parce qu'un enfant allait naître. Puis à cause de sa foi en Jésus, il a reçu malédiction sur malédiction, comme quoi l'enfant serait un monstre, etc., etc., et puis qu'il aurait mort avec effusion de sang, enfin bref. Et toute l'église s'est mise à prier ensemble. Ils ont prié. Le jour de la naissance de l'enfant, à l'instant de la naissance de l'enfant, le sorcier est mort. Beaucoup de gens qui n'ont pas conscience ou qui rigolent à ces choses, des missionnaires qui partent et puis qui pensent que c'est rien, il y en a beaucoup qui sont morts à cause de la sorcellerie et de ces puissances démoniaques. J'ai un ami qui était aussi pasteur au Burkina Faso, et puis lui, il a reçu des menaces, mais il proclamait le nom de Jésus. Un sorcier lui a mis un œuf sous sa route, il a dit « tu vas mourir si tu roules dessus ». Sous la route, sa voiture, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas avancer, il devait que reculer, il était obligé de rouler dessus. Puis il a dit « mon Dieu est plus puissant, je n'ai que faire de tes manipulations ». Il est entré dans la voiture, il est parti. Le sorcier était complètement secoué que sa puissance n'ait pas marché. Là-bas, c'est une réalité extrême. Aujourd'hui en Europe, elle est encore plus extrême parce qu'on n'y croit pas. Mais les magasins de sorcellerie, de malédiction, de chamanisme sont remplis de gens. Et ça marche. Je vais vous lire un article qui est aussi là-dedans, dans votre livre en page 57, vous pourrez y revenir. C'est des lignes qui sont tirées d'un article qui s'appelle « Briser le pouvoir de la sorcellerie » et qui dit ceci. En 2002, il a été écrit. « Des sorciers et des malédictions, cela semble être de la matière pour les films d'Hollywood. Malheureusement, la croyance dans le surnaturel exerce une grande influence sur la vie des gens dans plusieurs parties du monde. Au Mozambique, dans une ville, l'influence de la sorcellerie est telle qu'elle est considérée comme la deuxième cause de mortalité. Les sorciers ont même créé une association qui défend leurs intérêts. Parce que la sorcellerie est une partie intégrante de la communauté. Elle est très difficile à combattre, de même que la peur qu'elle engendre. Des pasteurs qui enseignent la parole de Dieu sont persécutés et menacés de mort à cause de ces choses-là. C'est vraiment une réalité extrêmement forte. Mais nous avons vraiment une réalité extrêmement plus forte. C'est la victoire en Jésus. On veut comprendre ces malédictions, comment la Bible en parle. Qu'est-ce que dit la Bible ? Proverbe 26,2, si je ne me trompe pas. Une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Si elle a été prononcée, elle ne sera pas sans effet. Mais tu peux dire à cette « je te refuse ». Et c'est terminé. Autrement dit, tu peux ne pas y entrer. Luc 6, 28, « Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, parce que la puissance de Dieu va au-delà de ces choses. » On en voit plein dans la Bible des malédictions, des paroles proclamées, avec Noé qui maudit l'un de ses fils qui a commis un acte honteux auprès de son père, et il bénit ses deux autres fils. On le voit avec Balaam, et les paroles proclamées aussi plus tard pour la destruction de Jéricho, celui qui détruira... qui remettra la première porte de la ville de Jéricho, son premier fils mourra. Et quand on lit le verset de Josué 6, 26, on découvre que c'est ce qui se passe, des années plus tard. La Bible est remplie d'exemples de ce genre. Une définition, la malédiction, c'est un état de malheur imposé par une divinité, par le sort ou le destin. C'est Wikipédia qui dit ça. Mais c'est aussi un rituel appelant les puissances divines à exercer une action punitive contre quelqu'un ou un groupe. En fait, c'est une entité, une force, une énergie qui fait des dégâts et qui est à craindre et à éviter. On ne va pas courir derrière ces choses en s'amusant. C'est une puissance qui transforme les paroles prononcées en résultats, une expression d'un désir de nuire. Les causes, portes d'entrée des malédictions, par exemple, il y a les péchés générationnels, comme on a vu. La conséquence d'une mauvaise action ou d'un péché, d'une pratique occulte d'une génération précédente. Il y a cette malédiction qui nous suit. Mais des paroles prononcées dans une génération passée peuvent se refléter. Le roi David, en 2 Samuel, en prononce une. En bas de la page 57, colonne de droite, vous avez cet exemple. Le roi demande la raison d'une sécheresse dans le pays, et Dieu lui répond que c'est à cause d'un acte odieux de Saül et sa famille qui ont tué quelqu'un. Et à cause de cet acte de destruction qui n'avait aucun cas, il y a la malédiction sur le pays. Il y a aussi le fait d'être en contact avec des objets maudits ou impurs. Des gris-gris, des symboles, des objets divers, des statues de force ou puissance ou Dieu autre que l'Éternel. Lui-même, d'ailleurs, dit qu'il ne veut pas qu'on fasse de statue de lui-même. Il y a des symboles occultes, les dieux égyptiens, les dieux grecs, les mythologies, les symboles religieux, le fameux symbole du peace and love, qui est d'ailleurs la rune de la mort. Donc c'est un objet et une symbolique occulte extrêmement forte depuis des millénaires. Ézéchiel 44:23 dit « Ils apprendront à mon peuple à discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » Il y a des choses que l'on doit être au courant parce que ça peut être terriblement néfaste dans nos vies. Les objets doivent être identifiés, abandonnés, détruits pour révoquer le droit que l'ennemi a acquis et pour rétablir la liberté de vivre dans la présence et la puissance de Dieu. Je prends un exemple simple. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui avaient des Bouddhas à la maison. Ils ont dû les jeter, prier, demander pardon et briser ces liens. Et tout d'un coup, ils ont eu l'impression que leur maison était plus lumineuse. Pourtant, il n'y a pas moins ou plus de lumière. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel. Je ne prendrai donc pas de tableaux ou de choses de dieux étrangers. » Et je sais que c'est très courant, c'est par exemple les dieux égyptiens. On les voit souvent, c'est beau le beau tableau avec les dieux égyptiens dessus. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'ai vécu des témoignages comme ça. J'étais au Cameroun, que j'y suis retourné pour voir où j'étais né. J'étais visiter un village. Dans un village, il y avait un artisan. Et puis, il avait comme un petit musée. Il m'a dit, c'est gratuit, viens. Alors, j'ai dit, OK. Puis, je suis entré, puis j'ai été regarder, super. Puis, quand j'ai voulu ressortir, il a commencé à me menacer de faire scandale parce que j'achetais rien. Et en fait, je voulais rien acheter parce que son artisanat était certes magnifique, mais la majorité, c'était des masques. Et la plupart des masques, on va dire le 99,9% des masques, ont une puissance démoniaque qui leur est attribuée. Alors nous, on se dit, c'est beau, je vais me souvenir. Tu parles. Et je voulais pas le prendre. J'ai pas eu le choix, sinon c'était un scandale. Connaissant pas le Cameroun, je me suis dit, j'évite. Je sais pas ce que veut dire scandale dans sa bouche. J'ai pris le masque. À la seconde où j'ai pris le masque, celui qui était avec moi, on a eu une tension pendant des heures et des heures. On s'engueulait, on n'arrivait pas à être d'accord à l'instant même. Jusqu'au moment où on s'est libéré de ce masque, qu'on a pu demander pardon et tout d'un coup, le calme est venu. Un autre exemple, je ne sais pas si je le dis là, quand mes parents se sont convertis, puis j'ai entendu le même témoignage il n'y a pas longtemps d'une autre famille qui a découvert ça. Ils étaient dans un temps de prière, ils ne connaissaient pas, mais mon père et ma mère étaient plutôt tendance look hippie et compagnie. Et puis, ben, ils étaient dans un temps de prière à la maison et quelqu'un qui était là, il a dit « Mais il y a quelque chose dans votre maison qui ne joue pas. » Et puis, ils ne comprenaient pas, alors ils ont demandé « Seigneur, c'est quoi qui ne va pas ?» Et puis, elle a défini, ouais, c'est un cercle, puis il y a une croix dessus. Puis mon père, il a fait tilt. Il a été dans un tiroir, il a pris le symbole qu'il avait, c'était le fameux peace and love. Puis il lui a montré, il a dit, oui, c'est ça que j'ai vu, exactement. Ils ont brisé cela. À titre informatif, le peace and love, c'est la rune de la mort. Ça a été le symbole de la croix de Néron, entre autres. La croix à l'envers, c'est un symbole antichrist. Je le dirai parce qu'il y en a peu qui le savent, mais la plupart de certains commandos SS pendant la Deuxième Guerre mondiale le portaient à la ceinture. La rune de la mort. Alors le peace and love, on a vu les dégâts que ça a fait pendant ces générations. La drogue, énormément de suicides, une libération des valeurs chrétiennes pour beaucoup. Et puis des infanticides, on n'en parle pas, à perte. Destruction des valeurs familiales. Ils ont porté le symbole de la mort pour parler de paix, et c'est une génération qui a énormément souffert. Et la descendance qui a suivi a énormément ramassé. Voilà des exemples parmi d'autres. Actes 19, 18, 20 dit ceci. « Beaucoup de ceux qui étaient devenus des croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. » Leur valeur de ces livres fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance de Dieu. Il peut aussi y avoir des endroits maudits, des lieux religieux qui sont infestés de démons. Je suis désolé, mais j'entends souvent que des chrétiens vont visiter des mosquées. Faites gaffe, vous allez dans le temple d'un Dieu ennemi de la parole de Dieu. Si on y est appelé, si Dieu nous convainc, s'il y a quelque chose, ça c'est un autre enseignement que je peux donner, alors là, demandons la protection de Dieu. Mais si on n'a pas cet appel, si on n'a pas ces choses, faisons extrêmement attention. J'ai aussi vécu un exemple, on était en voyage de noces en Crète avec mon épouse, puis on est arrivé dans un endroit où il y avait des ruines, et puis c'était des ruines basées sur la mythologie, comment il s'appelle, ce taureau qui était enchaîné dans les enfers. Un taureau. Voilà, le Minotaure, exactement. Et on était là, puis nous on s'est dit, bah ouais, c'est mythologique, on y va, c'est intéressant, on est entré là-dedans, on a étouffé. Autant ma femme que moi, on s'est senti, mais sous une oppression, mais quelque chose de phénoménal. Résultat, on est sorti de là, on n'a pas visité la suite, on a demandé pardon. Des années après, pendant un temps de prière, c'est quelque chose qui est ressorti. Est-ce que tu es allé visiter des lieux qui ont des symboliques occultes, des choses occultes derrière? On a dit oui, ça, c'était mis en lumière. On ne peut pas s'amuser avec ces choses si on n'a pas un appel clair de la part de Dieu. Je prends un appel clair, un exemple en Birmanie. J'ai lu un livre ce week-end sur l'évangile partagé en Birmanie. Mais c'est le bouddhisme à 2000%. Et c'est extrêmement violent. Il y a de ces pagodes, je ne sais plus si c'est le bon mot, à tous les niveaux. Et là, on ne peut pas y entrer innocemment. Deutéronome 7, 25 à 26 dit « Vous brûlerez les statues de leur Dieu. Ne cède pas à la tentation de récupérer l'argent ou l'or qui les recouvre. Ne le prends pas. » Je le sais, des fois, on a demandé des choses à des gens, puis ils m'ont dit « Ouais, mais alors je peux le revendre. » J'ai dit « Non, la Bible ne te le permet pas. Ne prends pas la richesse de la malédiction. Oui, mais c'est un cadeau que j'ai reçu. Et alors ? Oui, mais si la personne voit que je ne l'ai plus. Et alors ? Et là, ça rejoint ce qu'on disait avant, l'opinion de l'autre. Cela pourrait constituer un piège pour toi, car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras donc pas dans ta maison cette abomination, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée, tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. » Je vais donner un dernier exemple lié à ça, c'est les symboles de l'astrologie. Je pourrais une fois vous donner le témoignage pour ceux qui les volent, à quel point l'astrologie elle est mauvaise. Ouais, mais je peux lire l'astrologie dans le journal, j'y crois pas. Et puis quoi encore ? Va lire le livre des morts ou le livre de grands satanistes, tu n'y crois pas, tu veux voir. On ne joue pas avec les choses du diable. Une application dans des rituels démoniaques, pratiques impures, c'est des choses qu'on a pu vivre dans notre vie ou qui ont été vécu dans notre passé, des jeux démoniaques, ça ouvre la porte à les malédictions, exemple la planche Ouija, ou faire tourner les tables, ou autre jeu de malédiction, d'identification, des jeux de rôle, certains, pas des jeux drôles, hein, des jeux de rôle. Faisons très attention, il n'y a rien d'innocent dans ces choses-là, le monde des ténèbres est hyper sensible à ces choses-là, et il en profite, c'est des droits qui lui sont ouverts. La même chose pour des musiques occultes, des rituels occultes, par exemple la télépathie, la transmission de pensées, l'adoration de démons, séances de spiritisme, projection astrale, etc. Et plein de ces choses-là, on ne joue pas avec ça. Ouais, ouais, c'est rigolo, on va voir ce qui se passe. Ah ! Mais aussi des malédictions attachées à des lieux, comme je vous ai donné l'exemple, des endroits dans lesquels il y a eu dans le passé des meurtres, des abus, des viols. Quand vous regardez dans la Bible, quand ils doivent prendre Canaan, Dieu leur dit que dans chaque maison, ils doivent purifier leur maison. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'y est passé avant. Et Dieu ordonne qu'il y ait sacrifice et purification des nouveaux bâtiments dans lesquels on va. C'est pas innocent. Moi, j'ai rencontré une famille à Courgemont. Ils ont dû fuir leur appartement. Les deux parents et les enfants voyaient des manifestations démoniaques de leurs propres yeux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis ces manifestations venaient et déclaraient avoir un droit parce que dans cette maison, et chose vérifiée est vraie, il y a eu des meurtres violents. L'ennemi il s'amuse, hein, mais il a des droits. Alors ils sont partis, moi c'était une occasion pour leur prêcher l'évangile, j'ai pas été, j'ai pas reçu l'appel que je devais aller faire du nettoyage de leur maison. parce qu'on ne joue pas avec les choses du diable. S'ils me l'avaient demandé, je me serais remis devant Dieu, puis ça c'est une autre question. Mais ils sont partis. Ce couple aujourd'hui est complètement détruit. Ils ont vécu des années là-dedans. Lui, le mari, a écouté certaines choses que je lui ai dites et aujourd'hui on est encore en contact. Et il me pose des questions et il a envie de marcher dans des choses de Dieu. Un peu difficile, mais quelque chose s'est passé. Les paroles prononcées, il y a une grande puissance dans la parole. L'apôtre Jacques nous en parle, relisons l'épître de Jacques. Que ce soit en bénédiction ou en malédiction, consciente ou non. Exemple, je suis bête, j'y arriverai jamais, je serai toujours pauvre, je suis un nul. Ah, ça a un impact très fort. Vous savez, une remarque, j'en ai plein le dos. Vous étonnez pas d'avoir mal au dos à force de le dire. C'est des réalités. Même le monde non chrétien en psychologie le reconnaît. Faisons attention à ce qu'on chante. Il y a des chansons aujourd'hui qui sont des hits radio, et puis ma fille, elle me dit, mais ils chantent ça toute la journée, je suis une pute, je suis une pute. Ces titres font la une, à l'heure actuelle, dans la radio. Et les gens chantent, ils disent, oh, je m'en fiche des paroles, moi, c'est la musique. Mais continue de chanter, tu es une pute, ce que ça peut te faire du tort. Moi, un jour, j'écoutais un groupe de musique, de hard rock, qui s'appelait Kiss, et j'ai écouté toute la journée leur musique. À la fin de la journée, j'avais des pensées suicidaires. Puis après, quand on écoute, nous sommes les créatures de la nuit, ou plein de choses comme ça, avec une diffamation totale. Un des musiciens est looké en démon, l'autre en séduction. C'est des exemples. Mais la musique, elle est bonne.
Je crois même
ça, c'est une interprétation. C'est venu surtout par critique et non pas par réalité. J'ai beaucoup étudié ces choses. On peut aussi faire très attention. On dit, mais t'es un plouc, toi. T'es un nul, tu n'y arriveras jamais. Trouillard, idiot. Jésus l'a dit, si tu traites d'imbécile ton frère, tu mérites la géhenne. La parole a une puissance. Par la parole, tu peux tuer quelqu'un. Je le regrette, mais j'ai participé à ça. Quand j'étais jeune, avec un ami, il avait quelqu'un qui lui faisait du tort à cet ami. Et puis, je l'ai accompagné, et on était les deux chez lui. Et puis, mon ami est monté à l'étage, il a vu la maman, et il lui a dit, pour rigoler, puis par violence, il lui a dit, ton fils est mort. Là, on voit que les mamans réagissent. Et puis après, il lui a dit, ouais, il est enfermé sous une bouche d'égout. Puis il est redescendu en rigolant. Moi, comme un imbécile, il m'a raconté ça. Je suis parti avec lui en rigolant. On a fui. On a eu une grâce pas possible. La police, elle est venue chez nous. Et puis le mari qui est rentré plus tard n'a pas porté plainte. Mais sa femme a été plusieurs temps en psychiatrie. Quand tu insultes l'autre, il y a des conséquences. On ne joue pas avec la puissance de la parole. Et si tu réalises ça, tu réalises donc aussi que la bénédiction est extrêmement puissante. Même les moqueries. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup et qui fait très attention à l'humour. Même certaines fois, quand j'ai mis toutes les précautions pour dire certaines choses, certains sont venus vers moi en disant « ça m'a fait mal ce que tu as dit ». Et pourtant, je fais mais probablement plus attention que 90% des gens, tellement j'ai compris certaines de ces réalités. Et on dit « ouais, on peut rigoler de tout ». Non, je suis désolé. Maintenant, on est chacun sensible d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour autant que l'on va pas faire attention à ce que l'on dit plus loin. Ça fait des destructions. Mais c'était pour rire. Il y a un verset dans la Bible que je vous avais lu dans une de ces soirées. Mais c'était pour rire. Dans la Bible, c'était écrit, tu fais un tort à ton proche, mais tu lui dis, mais c'était pour rire. C'est une abomination aux yeux de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit Proverbe 18:21. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Annuler les malédictions, expérimenter la liberté. Et tout le monde fait « Ah !» Enlever les droits, fermer la porte d'entrée. On va revoir, c'est simplement Pour le faire, c'est important, il y a ces fameux 4 R. Confession, pardon sont inclus. Déclarer la liberté. Demander à Dieu d'ôter la malédiction qui pèse sur notre vie. Refuser cette malédiction. Ordonner à toute puissance démoniaque en lien avec cette malédiction de nous quitter. En page 59, vous verrez sur la colonne de gauche, il y a toute une aide pour vous accompagner dans les temps de prière à ce sujet. C'est une prière qui est préfaite, que vous pouvez utiliser et mettre à votre disposition. 59. Voici comment vous nous priez, colonne de droite, page 59. Ah ouais, j'ai écrit colonne de gauche, pardon. Refusez toute malédiction illégitime, que ce soit des paroles prononcées contre nous par des personnes connues ou non, que l'on en soit conscient ou non, simple ou engagé dans l'occulte, même si on ne le sait pas. Des personnes liées au monde occulte maudissent des chrétiens, ça se fait tous les jours. C'est leur combat. On a Jésus qui marche avec nous. Mais vous savez, c'est un exemple qui me revient. Ouh là là, je fais long. On a bientôt fini. Un exemple qui me revient. Certaines personnes que je connais commençaient à avoir des blocages dans leur vie. Puis dans les temps de prière, tout d'un coup, c'est sorti. Ouais, mais il y a des paroles de malédiction contre toi. Ok, bon ben Seigneur, alors on va les refuser. Et plusieurs fois, ces personnes se sont senties complètement libres. Tout d'un coup, ça va mieux. Après, tout d'un coup, ça revient et tout. Mais, de temps en temps, osons nous remettre. N'oublions pas le bouclier de la foi. Nous, on va au combat et dans la vie de tous les jours sans nous armer. Comme le dit Éphésiens 6, hein, armons-nous du bouclier de la foi. Il est bon de le faire à haute voix, de faire ce que l'on vient de voir. La parole est puissante. Ça, c'est quelque chose qui nous différencie de l'animal. Nous avons quoi ? Nous avons la parole que Dieu nous a donnée, nous, créée à son image. Faisons-le à haute voix. Il y a une aide aux pages 60, dans le cadre journaux aussi, qui aide. Refusez la malédiction, chassez au nom de Jésus toute puissance démoniaque associée à ces choses. Pardonnez, bénir ces personnes qui ont proclamé ces paroles, ou qui ont proclamé des paroles. On peut aussi purifier nos vies, le logement de tous les objets qui sont vers nous, les pratiques impures que nous avons faites. Mettons de l'ordre, faisons du balayage. Jeter, ne rien garder, que ça ait de la valeur ou non. Nettoyage complet, on l'a vu, il y a un verset qui le cite. Marcher dans l'esprit opposé, dans la liberté, la puissance, la bénédiction. Si on t'a dit tu es un idiot, refuse, pardonne, bénis et proclame que non, tu n'es pas un idiot, tu es une créature merveilleuse et que Dieu renouvelle mon intelligence pour que je ne croie plus à ce mensonge mais que j'avance. Marche dans la vérité de la parole de Dieu. Jésus renouvelle. Non, tu n'es pas un idiot. Si on dit que toute cette famille, elle soit soumise à la pauvreté, tu proclames ensuite, si tu réalises que c'est chez toi, que non, en Jésus, on ne manque de rien, que cette pauvreté s'arrête et que cette malédiction est terminée, on implore le pardon. La bénédiction refuse cet héritage. Les 4 R que l'on refait à chaque fois. Que l'Éternel veut notre bonheur, qu'il nous amène en bénédiction. Je ne suis pas en train de parler de devenir des milliardaires, je parle juste de marcher en bénédiction. Entre les mains de Dieu. En bénissant ceux qui nous ont détruits, c'est comme un paratonnerre. À partir du moment où on se remet devant Dieu, ces choses-là, ça fait tchou. Dieu les canalise et c'est parti à la croix. Dieu agit et quand il agit, il bénit et ça peut même toucher d'autres vies. Et avant la pause, Galates 5, hein, le Christ Jésus nous a rendus. Le Christ Jésus nous a rendus
libres.
Pas possible ça. Le Christ Jésus nous a rendus
libres.
Pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Amen.